l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence à Luchon, 94 FM.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Le beau temps persiste et c'est un vrai bonheur et un vrai plaisir de vous retrouver pour ce Présence Midi. Au sommaire de ce magazine, dans quelques instants, on prendra des informations du diocèse de Bayonne, l'Escar et Oloron. Alors bien sûr, la partie béarnaise, en ce qui nous concerne, nous serons au téléphone avec Nathalie Chambon, la nouvelle responsable du service communication du diocèse de Bayonne, l'Escar et Oloron. Et puis, nous parlerons d'une belle structure, on partira dans le Gers. La structure s'appelle Valoris, c'est une association, loi 1901, elle est reconnue d'intérêt général et d'utilité sociale. Il y a une ressourcerie, des ateliers chantiers d'insertion. Valoris propose aux salariés en insertion des activités dans le champ de l'économie circulaire et de la préservation de l'environnement. Nous serons avec son président Didier Brescon et son directeur Thierry Dassy, qui seront au micro de Pauline Cazier, notre correspondante dans le Gers. Et puis on va faire un petit peu d'histoire dans Un jour, un livre, un auteur, puisqu'aujourd'hui on va nous parler d'une grande bataille, celle de Vaucois, entre 1915 et 1916. C'est un très beau livre de André Pézard, et c'est Philippe Nounissier qui va nous faire découvrir cette pépite. Donc, dans quelques instants, dans Un jour, un livre, un auteur. Mais pour l'heure, un petit point sur l'actualité. Et on retrouve pour cela Lou Denville, notre étudiante dans l'école de journalisme de Blagnac.
Toulouse Métropole se mobilise avec la prévention routière et organise des actions de sensibilisation. Les premières séances ont lieu demain après-midi de 14 à 16 heures à l'angle de la rue Alsace-Lorraine et de la rue de la Pomme. Les usagers de la rue sont invités à s'y rendre pour participer à des animations et obtenir des explications sur les règles à respecter. En premier lieu, rouler ou pas. Le Mammobile reprend sa tournée dans le Gers pour renforcer le dépistage du cancer du sein. Du 16 au 19 mars, cette unité mobile de mammographie s'installera dans 4 communes, à Lectoure, Montréal-du-Gers, Justian et à Pavie. Ce dépistage est accessible gratuitement, il s'adresse aux femmes à partir de 50 ans et jusqu'à la veille de leur 75e anniversaire. La prise de rendez-vous est obligatoire au 05 62 67 22 00. Une nouvelle bibliothèque a ouvert ses portes dans la commune d'Orlex. La communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées se réjouit de cet événement qui a pour but de réunir tous les âges, de favoriser l'accès à la lecture et de renforcer le lien social au sein du territoire. Pour information, la bibliothèque se trouve à côté de l'agence postale 9 rue des Platanes. Enfin, le concours de cuisine Chef Crousteau revient pour une 3e édition. Cette année, il est organisé pour tous les élèves de l'Académie de Toulouse. Le thème est la street food healthy en respectant un panier imposé et en intégrant une démarche anti-gaspillage. Les 3 premiers prix seront récompensés par des lots lors de la finale le 20 avril et les recettes gagnantes seront ensuite proposées dans les food trucks du Crous. Les candidatures sont elles ouvertes jusqu'au 22 mars.
Allez, merci beaucoup Lou Denville. On vous retrouvera tout à l'heure à partir de 12h30 pour le journal de la mi-journée. Je rappelle que vous êtes étudiante à l'école de journalisme et de communication de Blagnac. Dans quelques instants, nous partirons dans le diocèse de Bayonne, l'Escar et Oloron, la partie béarnaise, pour retrouver la nouvelle responsable du service de communication du diocèse. C'est Nathalie Chambon qui nous parlera de 5 événements à venir. Mais pour l'heure, petite pause musicale, on retrouve Patrick Fiori. Ah,
d'hier. Que les traces de vos pères jamais s'effacent. Que la santé vous garde et que des enfants vous chantent un jour. Votre jolie lumière, votre grâce. Soyez curieux, ne cessez jamais d'apprendre. Voir, écouter, sentir, entendre. À la vie, à l'amour, que ces moments-là restent en nous pour toujours. À l'amitié, au beau jour, qu'ils éclairent. Jamais ne vous abîme. À la musique, à nos rires, qu'ils sachent nous réunir.
Radio Présence à Pau 96.
Chaque semaine maintenant, on en a l'habitude, on vous retrouve, Nathalie Chambon, bonjour.
Bonjour Philippe.
Merci d'être fidèle à ce petit rendez-vous. On va ouvrir notre agenda et puis on va voir quelques événements qui ont retenu votre attention pour le diocèse donc de Bayonne et Lescar et Oloron. Alors j'aime le rappeler parce que nous on s'intéresse particulièrement à la partie béarnaise, c'est la couverture de Radio Présence. Mais en ce qui concerne le Pays Basque, vous avez la chance, vous avez la radio La Pourdie qui prend le relais.
Tout à fait, tout à fait, tout à fait.
Allez, premier élément, Nathalie Chambon, c'est ce soir, et c'est un joli titre, hein, c'est « À table avec Jésus », c'est organisé par les Cotopaïs.
Oui, tout à fait. Donc c'est une soirée, en fait c'est toute une session qui est organisée pour ce temps de carême donc par Cotopaïs, avec le premier rendez-vous donc ce soir 26 février de 20h à 22h, c'est à la bibliothèque de culture religieuse qui se trouve avenue Édouard VII à Pau, sur le thème accueillir ou être accueilli. Donc c'est autour des repas que Jésus avait l'habitude de prendre avec ses différents convives. Donc voir comment Jésus pouvait être à table et évangéliser, bien sûr annoncer la parole. Au programme, il y a un temps de prière et un temps de contemplation à partir des évangiles. Donc il y a une petite inscription, information éventuellement si vous voulez venir ce soir. Et donc il y aura 5 rendez-vous ce jeudi, puis le 5 mars, 12 mars, 19 mars et 26 mars.
Voilà, et on félicite d'ailleurs Cotopaïs qui organise cette session. Demain, vendredi 27 février, cette fois-ci c'est Foi et Culture aussi qui propose pas mal de choses. Et cette fois-ci c'est une conférence qui se déroulera à l'église Saint-Paul à Pau.
Oui, tout à fait. Alors, Foi et Culture a retenu pour son cycle de conférences cette année le thème Faire corps. Et ce soir, plus précisément, une conférence donc dont le thème est du corps mortifié au corps fécond. Comment François d'Assise consent à faire corps. Cette conférence a lieu de 20h à 22h. C'est une conférence qui est ouverte à tous, libre de frais. Donc n'hésitez pas à venir à l'église Saint-Paul. C'est une psychologue, Sylvie Badetz, qui donc fera cette conférence.
Très bien, donc c'est ce soir, organisé donc par Foi et Culture.
Non, c'est vendredi soir, hein.
Oui, ah ben décidément, c'est effectivement demain, vendredi 27 février. Samedi 28 février, vous nous amenez à un concert et on prend la direction d'Orthez.
Oui, tout à fait. Donc c'est à l'église Saint-Pierre d'Orthès, un concert à 19h30. C'est un concert baroque autour du madrigal intitulé Madrigal et Variations. Il y a deux ensembles vocaux qui seront à l'affiche, Troubadour, qui est un quatuor vocal, et le trio Géocoso, qui sont deux mezzo-soprano et guitare, donc autour d'un répertoire des 17e et 18e siècles. C'est un concert qui remercie en fait et clôt la souscription qui a été engagée pour la restauration du vitrail du cœur de l'église. Donc c'est à l'église Saint-Pierre d'Orthès, c'est bien sûr participation libre, et venez prendre un petit temps de respiration ce samedi soir autour de ce beau concert.
Et on, bien sûr, on félicite tous ces gens qui se mobilisent pour la restauration des vitraux, ou plus précisément même certaines fois dans les villages, les églises hein, que les gens rénovent. Et donc, ben voilà, ce joli concert à Orthès pour conclure, je pense, la restauration de ces vitraux. Hein, c'est ce que vous nous avez dit.
Tout à fait, tout à fait.
La communauté, pardon, des Béatitudes de Nailles est toujours très active et là, elle nous propose une retraite.
Tout à fait. Alors, en temps de carême, faire une retraite, c'est toujours une bonne idée. Donc là, si vous êtes disponible entre le 3 et le 8 mars, donc la communauté des Béatitudes organise cette retraite qui s'appelle Argile et Parole, sur le thème des crises dans la Bible. Et autour de ce thème des crises, alors que ce soit les crises dans la Bible ou aussi nos propres crises personnelles, familiales, cette retraite propose autour d'ateliers avec l'argile de nous aider à justement revisiter nos crises de manière concrète. Donc il n'y a pas besoin de savoir faire du modelage, hein. Faut juste apporter sa Bible. Et donc c'est vraiment, je pense, un temps très fort personnel qui nous permet de mieux vivre et de mieux appréhender nos crises pour mieux les transformer et vivre donc au cœur de ce carême, ce petit temps de retraite. Donc du 3 au 8 mars, faut contacter les Béatitudes de Nailles si vous souhaitez y participer.
Voilà, puis c'est facile à trouver, vous êtes sur un moteur de recherche, Béatitudes de Nailles, vous trouvez bien sûr toutes les coordonnées, ou bien sur le site internet du diocèse de Bayonne, l'Escar et Oloron, dont vous nous donnerez l'adresse en terminant cet entretien. Trois soirées, c'est le dernier rendez-vous que vous avez, que vous nous avez sélectionné, trois soirées pour sauver son couple.
Alors, pas forcément pour sauver son couple, mais pour prendre soin de son couple, parce que le but, c'est quand même de pouvoir s'aimer toute la vie. Donc, ce parcours s'appelle Parcours Forever. C'est autour du thème « Merci, s'il te plaît, pardon », pour qu'on puisse redécouvrir ces trois petits mots avec son conjoint. Donc, la première soirée a donc lieu ce mercredi 4 mars. Il y en aura deux autres, le 11 et le 18. C'est de 20h à 22h à l'Institut Saint-Dominique à Pau. Et donc, il y a un temps d'accueil personnalisé, ensuite des petits topos dynamiques et un temps à prendre en couple. Donc, vraiment, je vous conseille de prendre aussi ce petit temps à deux. C'est toujours important de pouvoir se retrouver pour continuer à construire au jour le jour son couple. Donc, ce parcours Forever qui démarre ce mercredi 4 mars à Pau.
Voilà, prendre soin plutôt que sauver, bien sûr. Prendre soin de son couple, effectivement. C'est important aussi de ces moments que vous voulez nous présenter. Donc, écoutez, ça débute ce soir avec cette proposition à table avec Jésus et Cotopéis. Et puis, on termine par cette session pour prendre du temps également pour son couple. Merci beaucoup, Nathalie Chambon. On va terminer. Vous êtes la nouvelle responsable de la communication pour le diocèse de Bayonne, Escar et Oloron. On termine avec votre site internet.
Oui, tout à fait. Donc, www.diocèse64.org. Vous retrouvez tous les événements, tous les agendas, que ce soit bien sûr au Pays Basque ou en Béarn. Et puis également des articles sur les derniers événements, notamment l'appel de nos catéchumènes qui a eu lieu ce dimanche. 115 personnes vont être baptisées en cette vigile pascale. Donc n'hésitez pas à vraiment consulter le site ou même à nous envoyer tous les événements qu'on pourrait retransmettre sur ce site ou via vous, la radio présence en Béarn.
Exactement, voilà, n'hésitez pas, vous êtes organisateur de quoi que ce soit, eh bien faites-le savoir, parce que des fois c'est compliqué d'avoir les informations. Ben écoutez, on a des outils qui le permettent, le site internet, la radio, eh bien surtout c'est gratuit, donc n'hésitez pas quand vous organisez des manifestations à le faire savoir. Merci beaucoup Nathalie Chambon.
Merci beaucoup Philippe,
et puis on se retrouve la semaine prochaine, au revoir.
Au revoir.
Radio Présence dans le Luchonnais, 94 FM.
Seigneur de ta beauté, mon âme s'est éprise. Je veux te prodiguer mes parfums et mes fleurs, en les jetant pour toi sur l'aile de la brise. Je voudrais enflammer les cœurs, jeter des fleurs, c'est t'offrir en prémisse les plus légers soupirs, les plus grandes douleurs, mes peines et mes joies, mes petits sacrifices. Voilà mes fleurs, les pétales des fleurs caressent ton visage, te disent que mon cœur est à toi sans retour. De ma rose effeuillée, tu comprends le langage et tu souris à mon amour. Jeter des fleurs, redire tes louanges, voilà mon seul plaisir en la vallée des pleurs. Au ciel j'irai bientôt avec les petits anges. Jeter des fleurs. Te disent que mon cœur est à toi sans retour. De ma rose effeuillée, tu comprends le langage et tu souris à mon amour. Jeter des fleurs, redire tes louanges, voilà mon seul plaisir en la vallée des pleurs. Au ciel j'irai bientôt avec les petits anges. Jeter des fleurs, jeter des fleurs, c'est t'offrir en prémisse les plus légers soupirs, les plus grandes douleurs, mes peines et mes joies, mes petits sacrifices. Voilà mes fleurs.
Présence à Luchon, 94 FM.
Valoris est une association loi 1901, reconnue d'intérêt général et d'utilité sociale. Ressourcerie et atelier chantier d'insertion, Valoris propose aux salariés en insertion des activités dans le champ de l'économie circulaire et la préservation de l'environnement. À l'occasion de son changement de conseil d'administration récente, nous avons rencontré le nouveau président, Didier Brescon, et le directeur, Thierry Dassy. Ils sont tous les deux au micro de Pauline Cazier.
Monsieur Dassy, bonjour. Vous êtes directeur de Valoris. Alors, Valoris, pour les auditeurs de Radio Présence qui ne connaissent pas, c'est un chantier d'insertion qui est très implanté à Auch.
Oui.
Dites-nous, qu'est-ce que Valoris ?
Alors Valoris, c'est donc une structure associative de la loi 1901 qui est atelier chantier d'insertion, donc qui est reconnu atelier chantier d'insertion par rapport à un accord avec l'État. On accompagne en moyenne 75 salariés dans l'année et on embauche entre 34 et 35 salariés en contrat tous les mois, plus 11 permanents qui permettent de structurer et d'accompagner les salariés. Vous avez donc des conseillers en insertion professionnelle, des encadrants techniques, un pôle administratif, voilà. Aujourd'hui, Valoris, c'est ça. Ça travaille sur 4 ateliers références, qui sont l'atelier collecte de déchets d'activité économique. Il y a l'atelier espace vert, l'atelier bois métal et l'atelier ressourcerie boutique traçabilité. Cet atelier-là, c'est celui qui est le plus connu chez Valoris, qui récupère les apports volontaires des clients, on récupère les objets obsolètes. Et notre rôle derrière, c'est de trier et de faire du réemploi ou de remettre en filière pour minimiser le tout venant.
On parle de réinsertion professionnelle. Donnez-nous des exemples.
On a des salariés, mais donc notre but quand même, c'est d'avoir des salariés qui repartent dans une activité économique, parce que c'est des gens qui sont éloignés de l'emploi. On a quand même une partie qui sont des BRSA, donc des RSA, qu'on accompagne, on a un accord avec le département, pour pouvoir redonner la possibilité à ces personnes de reprendre une activité salariée classique, en redonnant des horaires et des possibilités. Donc là, en moyenne, on en a une trentaine dans l'année, qui sont accompagnés par le biais de cette structure. Et le reste, ce sont des personnes qui sont éloignées de l'emploi depuis un certain temps, puisque pour être employé chez Valoris, il y a quand même des contraintes par rapport aux difficultés qu'elles représentent. Et elles viennent donc chez Valoris faire un emploi aidé, qui est renouvelable tous les 6 mois. Et notre but, c'est de les remettre sur une activité pérenne, une activité classique, en redonnant le savoir-être et le savoir-faire qui est nécessaire pour retrouver une activité.
Alors on précise bien que ce n'est pas comme Emmaüs, c'est-à-dire que ce n'est pas une communauté.
Non. Emmaüs, c'est vraiment un esprit communautaire. Nous, c'est structuré de manière différente. C'est vraiment des salariés, c'est des gens qui... Voilà, on est obligé de prendre des gens qui ont un titre de séjour. S'ils n'ont pas de titre de séjour, on ne peut pas. Et ils vont chez nos collègues d'Emmaüs.
Alors, c'est situé dans la zone...
De l'hippodrome.
Et il y a aussi, pas très loin, une boutique.
Oui, c'est ça. Vous avez le siège social qui est... Donc les deux sont situés dans la zone de l'hippodrome. Vous avez la boutique qui est au 14 rue Roger Salengro. Et le siège qui est au 12 rue Federico Garcia Lorca. Et donc Valoris, voilà. Après, réalise des enlèvements chez les particuliers pour quand il y a des vies de maison, des décès ou certaines choses. Donc nos apports volontaires viennent de ça. Où à partir de là, nos équipes trient derrière ou rénovent les meubles pour les reproposer à des tarifs intéressants. Après, on travaille aussi avec des municipalités ou des associations pour les aider, par le biais d'éco-organismes Valdélia, de reprendre du matériel professionnel à des tarifs très défiants de toute concurrence.
Alors, je vais me tourner vers Didier Pascon. Vous êtes le nouveau président de Valoris. Est-ce qu'on peut dire un mot de l'ancienne présidente qui est décédée, qui s'appelait Bérangère Chambon? Qui veut en parler?
Madame Bérangère Chambon qui a été présidente pendant plus ou moins 26 ans de Valoris et qui a créé et développé cette structure associative. C'est une personne qui a œuvré et qui a créé vraiment une grosse entreprise avec des salariés compétents, enthousiastes, solidaires, qui travaillent vraiment avec un bon état d'esprit pour dans cette œuvre.
Donc maintenant, vous avez changé de conseil d'administration qui a été renouvelé.
Voilà, il y a eu un conseil d'administration un peu extraordinaire, plus suite au décès de Mme Chambon. Et un nouveau conseil d'administration est créé avec 9 nouveaux membres pour le compléter. Et avec tous des membres qui sont très volontaires aussi pour la structure.
Donc un nouveau départ en quelque sorte pour Valoris ou enfin...
Oui, c'est une nouvelle aventure qui commence, parce que genre aujourd'hui le conseil d'administration était un peu esselé. Là aujourd'hui on a 12 personnes qui entrent, donc ça donne quand même plus de crédibilité à notre structure. C'est vrai que c'est des personnes qui viennent de secteurs d'activité différents, donc amènent un savoir-faire différent. Et c'est très bien pour les salariés qui sont en insertion, puisqu'on était quand même inquiets par rapport à ça. Sans président, c'était pas évident. Voilà. On l'avait préparé, mais on ne pensait pas que le décès serait aussi brutal. Donc c'est vrai que c'était compliqué pour nous. Donc ça a rassuré quand même les salariés de voir que des gens étaient investis dans le bénévolat et dans l'accompagnement des personnes en difficulté.
L'instant, c'était le directeur de l'association Valoris, Thierry Dassy, qui était interviewé par Pauline Cazier, notre correspondante dans le Gers.
Parfum qu'on respire.
C'était Francis Cabrel. Il faudra leur dire sur Présence. 12h passées de 29 minutes. Bon appétit. Si vous êtes à table, on fait un point sur l'actualité.
Radio Présence à Auch. 89.6.
Et pour cela, on retrouve Lou Denville, qui est étudiante à l'école du journalisme et de communication de Blagnac. Bonjour, Lou.
Bonjour à tous. Toulouse Métropole se mobilise avec la prévention routière et organise des actions de sensibilisation au fonctionnement de l'aire piétonne Alsace-Lorraine. Les premières séances ont lieu demain après-midi de 14 à 16 heures. Un barnum sera installé à l'angle de la rue Alsace-Lorraine et de la rue de la Pomme. Les usagers de la rue, automobilistes, livreurs, vélos ou encore trottinettes sont invités à s'y rendre pour participer à des animations et obtenir des explications sur les règles à respecter en premier lieu. Rouler au pas. Cette démarche vient en complément d'actions déjà en place dans cette rue, comme l'installation de panneaux de rappel de la règle qui prévaut en aire piétonne et des opérations de contrôle de police pouvant donner lieu à des verbalisations. Pour rappel, le non-respect de la vitesse autorisée est passible de 35 euros d'amende. Le Mamobile reprend sa tournée dans le Gers pour renforcer le dépistage du cancer du sein. Du 16 au 19 mars, cette unité mobile de mammographie s'installera dans 4 communes, à Lectoure, dans la salle Omnisport, à Montréal du Gers, place de l'Hôtel de Ville, à Justian, place de la Mairie, et à Pavie, esplanade de l'Occitanie. Ce dépistage est accessible gratuitement et s'adresse aux femmes à partir de 50 ans et jusqu'à la veille de leur 75e anniversaire. La prise de rendez-vous est obligatoire au 05 62 67 22 00. Une nouvelle bibliothèque a ouvert ses portes dans la commune d'Orlex. La communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées se réjouit de cet événement. Je cite « Cet établissement met à disposition du public une sélection variée d'ouvrages pour tous les âges, romans, albums jeunesse, bandes dessinées, documentaires ou encore revues. » Conçue comme un lieu convivial et accessible, la bibliothèque a pour objectif de favoriser l'accès à la lecture et de renforcer le lien social au sein du territoire. Pour information, elle se trouve à côté de l'agence postale 9 rue des Platanes, D'autre part, les travaux de la future médiathèque ont démarré dans le quartier de l'Arsenal, à Tarbes. Il s'agit d'un investissement d'environ 20 millions d'euros, qui verra le jour d'ici 2027. Enfin, le concours de cuisine Chef Crousteau revient pour une troisième édition. Cette année, il est organisé pour tous les élèves de l'Académie de Toulouse. Le thème est la street food healthy en respectant un panier imposé et en intégrant une démarche anti-gaspillage. Ce concours de cuisine aux allures d'un top chef invite les étudiants à concevoir des menus à thème comprenant une entrée et un plat chaud. L'ensemble doit être réalisable en grande quantité et adapté à la distribution du Crous. Les trois premiers prix seront récompensés par des lots lors de la finale le 20 avril. Et les recettes gagnantes seront ensuite proposées dans les Crous Trucks, les food trucks du Crous permettant d'offrir une meilleure visibilité et de mettre en valeur les talents des étudiants de la région. Pour info, les candidatures sont ouvertes jusqu'au 22 mars.
Merci beaucoup, Loudenville. Le prochain point sur l'actualité, ce sera tout à l'heure à 13h avec la rédaction française de Radio Vatican. On va parler de la Première Guerre mondiale avec Philippe Nonni et Diego Arrabal, avec cette grande bataille qu'il y a eu à Vaucois. C'était entre 1915 et 1916.
Radio Présence sur le Causse, 106.5.
Friendship I will never end. When you are weak, I will be strong, helping you to carry on. Call on me, I will be there. Don't be afraid. Please believe me when I say, count on.
Harder than it really is, but we.
Simoni.
Bonjour Philippe Subercaz.
Bonjour Diego Rabal.
Bonjour Philippe et Philippe.
Bonjour Diego Rabal.
Les deux bon Philippe, voilà. Diego, Philippe Noli, vous nous aviez promis la semaine dernière, vous nous avez donné un peu de suspense, on avait découvert un magnifique livre qui mériterait vraiment d'être...
Premier combat de Jean Moulin.
Ouais, de Jean Moulin qui devrait être
aux éditions de Minuit.
Dans les manuels, et on devrait faire lire ça aux élèves. Et vous nous aviez parlé d'un deuxième ouvrage que vous allez nous présenter aujourd'hui.
Alors, deuxième ouvrage aujourd'hui, donc je rappelle qu'en 2026, c'est le 110e anniversaire de la bataille de Verdun. Donc bataille qui va être, on va en parler cette année, puisque vous savez que la bataille de Verdun commence le 21 février 1916 et se termine à peu près le 10 décembre 1916. Donc l'année 2026 va être très occupée effectivement pour célébrer cette bataille de Verdun. Le livre, c'est Nous autres à Vauquois. Et c'est vrai que Nous autres à Vauquois, ben Vauquois, c'est le lieu, un lieu de combat durant la Première Guerre mondiale que je ne connaissais pas, que j'ai été visiter. Je suis tombé sur ce livre d'André Pézard, donc il y a cette association.
Alors mon cher Philippe, où c'est Vauquois ?
Je vais vous dire, vous allez voir sur la quatrième de couve, c'est très intéressant la façon dont André Pézard en parle lorsqu'il écrit son livre. Écoutez bien ce que dit la quatrième de couve. « Oh vous autres, les autres qui êtes ailleurs et qui serez plus tard, vous ne comprendrez jamais, vous ne sentirez jamais. » Vous serez comme des étrangers et des ennemis. Vous ne serez jamais point ce que cela veut dire. La mine de l'Ouest à Vauquois. La mine du 14 mai 1916. Ni comment la mort se dresse vivante contre les hommes. Ce texte, écrit au siècle dernier, à l'issue de la Première Guerre mondiale, n'a pas vieilli, parce qu'aujourd'hui, si on faisait un sondage auprès des auditeurs et des auditrices de Radio Présence, personne ne saurait où se situe Vauquois. Vauquois, c'est dans la Meuse. C'est pas très loin, effectivement, de Verdun. Et c'est ce qu'on a appelé la bataille des mines. C'est-à-dire, on est sur une colline, qui est la colline de Vauquois, aujourd'hui, où vous avez une forêt, vous avez des nécropoles tout autour. Et ça a été un lieu, donc, où les Français et les Allemands ont tenté de prendre cette colline. Et pour la prendre, ils creusaient des mines sous les tranchées ennemies, donc par des mineurs. Une fois qu'ils avaient creusé cette galerie, ils effectuaient donc une immense cavité, ils creusaient une immense cavité dans la craie, on la bourrait d'explosifs, et on faisait sauter la tranchée ennemie juste avant de lancer une attaque. Et il y a, effectivement, cette mine qui va sauter, donc en 1916. Alors, je précise quand même, je ne veux pas l'oublier, que André Pézard, c'était un universitaire, c'est le pendant de Marcel Bloch. Alors, je voudrais juste vous rappeler, Philippe Subercaz et Diego Rabal, que Marcel Bloch, on avait présenté son livre l'année passée, L'étrange défaite, publié chez Folio. On a la date à laquelle Marcel Bloch va être donc inhumé au Panthéon. Ça va être en juin 2026. D'accord ? Donc, vous voyez que ça va être aussi un événement cette année, qui va être certainement aussi important que celui que l'inhumation donc au Panthéon
De
Manoukian, mais également du ministre, de l'ancien ministre de la Justice, même si il est toujours dans sa tombe, il y a les livres effectivement qui sont présents, donc de Robert Badinter. Donc André Pézard, ça a été tout comme Marcel Bloch, un brillant universitaire de l'École normale supérieure dans la section des lettres. Et en décembre 1914, il rejoint la 10e division d'infanterie. Il combat pendant 18 mois en Argonne. L'Argonne, c'est toujours la Meuse. Et surtout à la tristement fameuse butte de Vauquois. Ce lieu terrible que les Allemands nommaient, écoutez bien, le Mont des Morts. Nous, on appelait ça la butte de Vauquois. Les soldats allemands appelaient ça le Mont des Morts. Vauquois, c'est cette bataille statique de la Première Guerre mondiale, donc je vous le disais, cette fameuse bataille des mines. Et la plus connue, c'est l'explosion, effectivement, du 1er juillet 1916, juste avant, quelques minutes avant, la bataille de la Somme. Cette explosion la plus connue, elle fait un cratère de 100 mètres de diamètre, qu'on peut voir encore aujourd'hui, que j'ai été visité, de 21 mètres de profondeur. Quand vous y êtes en bas, je peux vous dire que c'est au-dessus, c'est impressionnant. En bas, c'est, je pense, tout aussi impressionnant. Et il s'agit du vestige, donc d'un vestige unique en Europe, de l'explosion d'une mine, donc 1er juillet 1916, au petit matin, quelques minutes seulement avant le début de la bataille de la Somme. Et à l'origine de l'explosion, ce sont des mineurs gallois qui creusent un tunnel jusqu'aux premières lignes allemandes afin de les faire céder. Ils y placent, écoutez bien, 30 tonnes d'explosifs. 30 tonnes d'explosifs. Donc, comment on fait ? On creuse, on enlève tous les débris de craie, on les met à l'extérieur. Une fois qu'on a mis les 30 tonnes d'explosifs, il faut reboucher le trou pour que ça marche bien, puisque une explosion ne marche qu'à partir du moment où c'est confiné. Donc on rebouche, donc ça prend un temps fou. Pour creuser, il faut savoir que les mineurs vont travailler pieds nus sur des sacs, juste en mettant et pas à coup de pioche, parce que au-dessus, sinon, les Allemands entendaient qu'ils le faisaient. Et donc, dans ce cas-là, que le faisaient-ils? Ils creusaient un trou, ils faisaient sauter le trou pour faire s'effondrer la galerie adverse. Il y a eu comme ça, durant la Première Guerre mondiale, tout un tas de batailles. Et c'est ce dont parle le livre d'André Pézard, Nous autres Avoquois. C'est vraiment un livre remarquable qu'il faut lire dans le cadre effectivement du 110e anniversaire de la Première Guerre mondiale, parce que c'est un peu le pendant du livre L'étrange défaite de Marc Bloch, un peu le pendant du livre Premier combat donc de Jean Moulin, deux livres écrits durant la Seconde Guerre mondiale. Je vous rappelle que celui de Marc Bloch dont on avait parlé, c'est donc Marc Bloch est un universitaire brillant qui combat durant la Seconde Guerre mondiale, qui avait aussi combattu durant la Première Guerre mondiale, et qui raconte effectivement comment il y a cette étrange défaite. Là, Nous autres Avoquois, ça lève un voile de cette bataille. C'est vrai que si on passe au bord de la route, qu'on voit ce cratère, si on va pas voir le panneau, on se dit tiens, il y a un trou. Il y a un trou, sans penser qu'effectivement ce trou a été fait par les hommes lors de cette fameuse bataille. Si un jour vous y allez, on peut visiter également là-bas, sur place, je le dis pour les auditeurs et les auditrices, toutes les galeries allemandes, elles sont visitables. Vous avez donc associations qui, lors de la journée du patrimoine et lors du 8 mai, font visiter effectivement et du 11 au novembre, font visiter effectivement ces galeries. Donc vous pouvez rentrer, vous voyez à l'intérieur, il y a des chapelles, vous avez les endroits, les cuisines, les endroits où ils mangeaient, et tout a été conservé. Vous voyez les coups de pioche qui ont été donnés pour creuser tout ça. Il faut y aller, c'est vraiment très émouvant. Et ce que j'ai constaté, c'est que depuis le début de la guerre, puisque je m'y rends chaque année à titre personnel, comme mon arrière-grand-père a été tué, maternel a été tué à Verdun en 1916, le 9 octobre 1916, je m'y rends chaque année, et ce que j'ai constaté, c'est que depuis le début de la bataille, de l'attaque russe en Ukraine, il y a beaucoup plus de gens, j'ai remarqué, qui viennent visiter effectivement les lieux. Et quand j'ai demandé aux gens, certains, pourquoi ils venaient, les personnes m'ont dit, c'est parce qu'il y a la guerre là-bas, et bon, quelque part, ça nous interpelle. Et il y a ce besoin, je pense, de se réapproprier notre histoire, et c'est pour ça qu'à présence, on souhaitait également s'associer, vous voyez, à ce mouvement, en parlant de livres, c'est le rôle d'un jour un livre un auteur, en parlant de livres qui sont pas connus, comme vous le disiez la semaine passée, Philippe Subercase, voilà. Vous connaissiez, vous autres Avoquois, ça vous parlait du tout?
Pas du tout.
D'Igor Rabal, vous avez jamais entendu parler de la butte de Avoquois, Philippe Subercase? Bon. Donc le but, vous voyez, aujourd'hui, vous voyez, je fais aussi cette émission littéraire pour vous, quoi. En fait, si je n'avais que deux auditeurs, ce serait Philippe Subercase et Diego Arabal. Ils sont là.
Oui, mais présents. Quels auditeurs.
Mais quels auditeurs,
n'est-ce
quoi.
Pas, Philippe.
Non, mais c'est, oui. J'ai l'élite avec vous, quoi. J'ai l'élite, effectivement, des auditeurs. Je vais vous lire un passage, maintenant, écrit, donc, par André Pézard. Alors, c'est écrit dans une langue vraiment que j'appelle, moi, une langue soyeuse. On voyait vraiment que c'était un lettré. Et quelqu'un qui écrivait particulièrement bien. 4h30 du matin. Depuis 5 ou 6 quarts d'heure, des obus glissent par intervalles au-dessus de nous avec un bruit soyeux. Ils se suivent patiemment, doucement, dans la pluie menue. Ils semblent perdus sous ce ciel monotone. Ils hésitent à tomber parmi toute cette boue. Chacun a l'air de chercher un chemin pour son compte en gémissant. On vient de nous donner les mêmes ordres qu'hier. Baïonnette au canon. Nous nous enlisons de plus en plus dans notre tranchée sans rien voir. Un blessé passe, courbé en deux, la main en avant. Un jet mince de sang noir pisse doucement de son doigt coupé. Où est le poste de secours, les gars? Nous l'ignorons. Descends le boyau, vieux. C'est en bas. Quelques minutes après, d'autres hommes de la 10e descendent encore en bande. il y a des tués. Les crapouillots accablent la première ligne devant l'église. Les crapouillots, ce sont le nom des obus qui étaient donnés par les soldats français. C'est bien le boyau du poste de secours par ici ? 5h30. En bas, vers le sud-ouest, on entend crépiter la fusillade. On ne voit rien. Brouillard qui noie la plaine et les tranchées. Des blessés passent sans fusil, plus malheureux de la pluie que de leurs blessures. C'est en bas le poste de secours ? Va toujours, gars, t'as qu'à descendre. Planque-toi en tournant, au gabion. Mon lieutenant, le capitaine est blessé, il vous demande. Blessé, ah zut alors, c'est grave, tu ne sais pas ? Il a dit que vous veniez de suite. J'ai soulevé la toile de tente qui retombe pesamment. De la tanière étroite qui sert de poste de commandement, 5 ou 6 hommes s'agitent et interceptent la lumière d'une bougie. Au fond se détache, sur l'ombre foncée, le torse nu tout jauni du capitaine Gauthier. Il est assis sur une caisse à munitions et ne dit rien. Un homme que je ne connais pas le pense avec lenteur. L'eau ruisselle le long des poteaux qui soutiennent les planches du plafond. Parfois un clignotement de bougie fait luire sur les marbrunes brunes du bois moisi, sur les marbrures brunes du bois moisi, une coulée d'eau filante. « Ah, c'est vous, me dit le capitaine. Tenez, prenez tout de suite le bonnet de la compagnie. Le détail est sur le bout de papier. Maintenant, vous connaissez les ordres, n'est-ce pas ? Je n'ai rien de plus à vous apprendre. Les consignes n'ont pas changé. Pour le reste, le fournier vous renseignera. » Calme et précis, comme toujours, malgré la douleur, le capitaine me dit doucement tout ce qu'il a à me dire. Les yeux brillants, il caresse de son geste familier la paume sous la mâchoire. Son collier de barbe noire qu'il laisse pousser depuis 2 mois. Il ne laisse rien voir de sa souffrance, ni de son chagrin. J'ai regardé par un créneau dans la vallée à l'ouest, couplinant, écrené. Dans la brume, les marsouins du 42e se repliaient vers leurs tranchées. Ça et là, de petits tas bleus foncés restaient allongés sur les friches sales. Quelques obus lâchaient encore leurs brusques bouffées, comme des noyaux de brouillard. On me dit que de notre côté, c'est à peine si le 89e a pu sortir. Il faut s'en consoler, ajoute-t-on, en pensant que cela nous a permis de repérer certaines tranchées et certaines mitrailleuses boches. La cadenade s'est apaisée. Le crapouillotage a cessé son tintamarre de ferraille. Par miracle, nous n'avons à la compagnie que très peu de pertes. 4 tués et 4 blessés. Un obus a éclaté à l'entrée de la cave où se tenait Ray, le sous-lieutenant venu des hussards. Elle s'est écroulée sur lui sans le blesser. Il en est sorti plein de boue, en grattant la terre. Il envoie chercher du pain et de l'agneau. Ce qui est étonnant, voyez, dans ce passage, c'est quand il écrit « Nous n'avons à la compagnie que très peu de pertes, 4 tués et 4 blessés ». Moi, je veux mettre ça, voyez, en perspective avec aujourd'hui, lorsqu'on a une opération extérieure, si on a 4 tués, c'est énorme. Mmh. Et comment, à l'époque, vu le nombre de morts et de tués qu'il y avait, eh bien, il écrit « Nous n'avons à la compagnie que très peu de pertes, 4 tués et 4 blessés ». Ça démontre quand même, voyez, comment dans cette guerre on s'était habitué, comme dans toutes les guerres d'ailleurs, au fait de perdre des hommes. Et je recommande vraiment de lire ce livre. Hein. Donc il y a des photos également hein, qui ont été prises à l'époque par André Pézard et par ses hommes, hein, avec l'entrée d'une sape, la batterie, les guetteurs donc en première ligne, l'ouverture d'une sape. Alors je rappelle, une sape, hein, c'est un endroit où on rentre hein, pour faire effectivement
une galerie
et se protéger soit de l'artillerie, soit effectivement des autres. Alors on l'a creusée toujours à l'opposé de la sortie pour que quand l'explosion arrivait, pour que les éclats d'obus puissent aller effectivement à l'extérieur et pas dans le sens de l'obus, mais dans le sens inverse de l'obus. Donc on creusait forcément une tranchée vers ou une sape vers les ennemis. Voilà, ce qui peut paraître particulier. Je vous rappelle juste, je ne sais pas si vous le saviez, que les tranchées étaient imbriquées et donc il arrivait que les soldats soient par moment à 20 mètres les uns des autres, quoi. C'est-à-dire que au moment où par moment les combats cessaient, les Français entendaient les conversations des Allemands, les Allemands entendaient les conversations des Français. Tout cela sur les 700 kilomètres de front, donc sur lesquels se sont affrontés durant 4 années tous ces soldats. Donc Vauquois, c'est vraiment quelque chose à connaître. Hein. Nous autres à Vauquois, c'est pour ça que je souhaitais vous présenter ce livre cette année dans le cadre du 110e anniversaire de la bataille de Verdun. On pense tout le temps à Verdun, on connaît les forts de Douaumont, les forts de Vaux, les forts de Souville, le fort de Tavannes, qui sont des forts autour desquels donc s'est jouée la bataille de Verdun entre février et juillet 1916. On connaît beaucoup moins Vauquois, Et je vous redis encore les paroles hein, d'André Pézard, hein, ce qu'il écrit dans le livre, hein, ce qui est terrible. Quand il écrit « Vous ne sentirez jamais, vous serez comme des étrangers, des ennemis. Vous ne serez point ce que cela veut dire. La mine de l'Ouest à Vauquois, la mine du 14 mai 1916. Hein, » voilà. Et celle du 1er juillet, quelques minutes avant le début de la bataille de la Somme, qui fera un trou de 100 mètres. Vous voyez, je ne sais pas si vous imaginez, 100 mètres. Et 21 mètres, effectivement, de profondeur. Il faut savoir que ce trou, il s'est un peu comblé avec le temps, avec le fait qu'il a plu, que vous avez de la boue qui a coulé. Et encore aujourd'hui, sans qu'il n'y ait aucun entretien, on mesure effectivement ce qu'a été cette bataille. Et on trouve, si vous allez sur le champ de bataille, trois clichés qui ont été pris, trois clichés photographiques. Le cliché photographique du début de l'explosion, du milieu de l'explosion et de la fin de l'explosion. Vous avez l'impression que la Terre sort qu'elle est propulsée comme s'il y avait un trou noir qui arracherait la terre du sol. Ça fait vraiment, vraiment penser à ça. J'imagine le photographe qui a pris cette photo. Il y a eu, sachez-le, des débris qui ont été projetés à plus d'un kilomètre de là. Et entre 150 et 200 kilomètres de là, la déflagration a été entendue. Et surtout, à des kilomètres de là, il y a des soldats qui se sont demandé ce qui se passait, qui sont préparés au combat, persuadés que c'était dans leur secteur que se déroulait effectivement
l'explosion.
Voilà. Et il le raconte très bien, ça, dans son livre. Donc c'est, je le précise, hein, c'est l'association des amis de Vauquois et de sa région qui publie donc ce livre. Hein. Donc ce sont des gens qui perpétuent la mémoire, qui ne veulent pas faire oublier, donc, effectivement, cela. Donc, nous autres à Vauquois, d'André Pézard, donc, un universitaire, dans la guerre, durant la première guerre mondiale. Voilà. Et, donc, on avait parlé de Marcel Bloch, André Pézard, voyez, on a cité également Maurice Genevoix, tous ces hommes qui, à un moment donné, avaient une situation brillante, mais sont partis, effectivement, défendre leur pays. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui, Philippe Subercase et Diego Arrabal. Donc, je rappelle, hein, sur ces deux émissions, ces deux livres vraiment que je vous recommande. Jean Moulin, Premier combat, donc, aux éditions de Minuit, avec une préface du général de Gaulle. Et André Pézard, Nous autres à Vauquois, donc, préface de l'abbé Bernard Cor et postface de Jean-Jacques Becker. Voilà, deux livres vraiment absolument spécifiques. Et dernière chose que je voulais vous dire, c'est qu'André Pézard est né à Paris le 22 juin 1893, de parents instituteurs. Il est écrit donc « combattant littéraire de la Grande Guerre ». C'est une expression assez amusante avec un trait d'union entre les deux. Et il met après des études au lycée Louis-le-Grand, est amené en juillet 1914 à l'école normale supérieure dans la section des lettres. Après son agrégation en 2019... Il devient professeur au lycée de Lyon et en même temps chargé d'un cours d'italien à la faculté. Il quittera le Collège de France à l'âge de 70 ans. En décembre 1914, il rejoint la 10e division d'infanterie, nommé sous-lieutenant au 46e régiment de ligne de Fontainebleau-Paris. Il combat pendant 18 mois en Argonne et surtout à Vauquois, Le Monde est mort. Voilà. Je vous recommande ces deux ouvrages véritablement passionnants. Donc, mes deux premiers lecteurs, hein, je les précise, hein, Philippe Subercase et Diego Arrabal. Hein,
nous allons lire nous préparer à l'interro-surprise.
À l'interro-surprise. Et également, je le recommande à toutes les auditrices et tous les auditeurs qui nous font le plaisir d'écouter notre émission Modeste mais géniale, un jour, un livre, un auteur.
Exactement, Modeste mais génial. Génial.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
On se revoit la semaine prochaine.
Allez, ça marche. Merci, à bientôt. Au revoir.
Allez, au revoir.
Radio Présence dans la Haute Ariège 92.7.
Camminando in Tarador. Un soggetto con la portoghese upon the fields of Bali.
a quelle dalle d'oro.
Will you stay with me? Will you be my love? Among the fields of barley.
Di un sole viene, ci nascurderemo una notte intera.
Of a soul upon the fields of body.
Ci sarà l'amore, non tuo esolabre, mezza quella d'aria d'oro.
I've never made promises like you, and there have been some that I've broken, but I swear in the days you left.
À Cahors 92.5
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
Troisième série de négociations indirectes entre Washington et Téhéran ce jeudi à Genève, l'Iran.